Fouad Boukhari.
Une affaire peut en cacher une autre dans le scandale crypto. L'affaire d'espionnage a relevé des problèmes d'archivage. Le Conseil fédéral a permis pendant des décennies aux services de renseignement de soustraire à grande échelle des pièces importantes. Dans ce journal également, un documentaire aux accents complotistes autour de la pandémie de Covid-19 en France. Plusieurs élus et ONG ont sévèrement critiqué le film sorti mercredi grâce à une campagne de financement participatif. Et puis le football aussi perturbé par la crise sanitaire avec l'Euro 2021 qui devrait avoir lieu l'été prochain dans plusieurs pays. L'autorité de surveillance de renseignement va examiner les problèmes d'archivage suite à l'affaire d'espionnage crypto. Le service de renseignement de la Confédération, le SRC, a détruit des documents pendant des années. Pas toujours de manière légale, des violations du devoir de conservation qui interpellent Marie Giovanola et qui pourraient faire changer la pratique actuelle.
Des documents du SRC ont été détruits encore en mai dernier de manière manifestement illégale, alors qu'une loi fédérale sur l'archivage existe depuis 1999. Selon cette commission parlementaire, le Conseil fédéral a permis pendant des décennies aux services de renseignement de soustraire à grande échelle des pièces importantes. Pour Sacha Dzala, président de la Société suisse d'histoire, il y a une tendance à être plus tolérant avec le service de renseignement.
Pensez à la dimension romantique des services de renseignement et donc le concept aussi de la sécurité nationale. Donc chaque fois qu'on touche ce genre de sujet, il se lève toujours une espèce de raison d'État qui fait aussi qu'on ne regarde pas les choses d'une manière plus précise. Plus un service pense d'agir pour la raison d'État et plus qu'il sera prêt de ne pas suivre les lois et donc de se soustraire au contrôle démocratique.
Le problème principal, c'est à l'administration de transmettre ces documents aux archives fédérales qui décident ensuite ce qu'il convient de conserver ou non. Mais les moyens de contrôle manquent et cela doit changer selon Sacha Dzala.
Malheureusement, il n'y a pas de sanctions. Donc les archives fédérales n'ont aucune possibilité d'aller contre des offices qui se soustraient à la loi. Et c'est là où je pense qu'il faudrait changer les choses. Je pense au contrôle fédéral des finances qui a des moyens coercitifs à l'intérieur de l'administration et il faudrait absolument donner aux archives fédérales les mêmes compétences.
À voir si le Parlement proposera des changements de pratique pour assurer la conservation des documents, non seulement pour les historiens et les chercheurs, mais surtout pour assurer un contrôle démocratique.
À l'actualité à l'étranger, Donald Trump désavoué par ses propres services. Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit la présidentielle. Voilà l'avis des autorités électorales américaines, dont l'une de ces agences dépend de la sécurité intérieure. Elles ont donc contredit hier les accusations avancées par Donald Trump pour justifier l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et justement à ce propos, il faut être patient pour obtenir les résultats dans certains États américains. Joe Biden qui a finalement remporté cette nuit la victoire dans l'État d'Arizona. 11 grands électeurs. Scrutin serré puisque le candidat démocrate a 11 000 voix d'avance selon les chaînes les médias américains. Joe Biden qui peut désormais compter sur 290 grands électeurs.
Et crise sanitaire oblige. Vous êtes désormais nombreux à travailler depuis chez vous, mais l'enthousiasme autour du télétravail est marqué par un fossé générationnel.
Selon une étude publiée hier par Manpower, les baby boomers, la génération qui les suit ainsi que les moins de 25 ans, se réjouissent de retourner au bureau, alors que les millennials se montrent très réticents, d'autant plus s'ils ont des enfants. Anne-Marie Van Rampé, consultante en ressources humaines, relativise cependant le critère de l'âge. Dans sa pratique, elle observe d'autres facteurs qui entrent davantage en ligne de compte.
Le plus déterminant, c'est vraiment le contexte dans lequel j'ai l'impression de fonctionner correctement. C'est plus lié à la situation du bureau à la maison, dans quel contexte j'ai un espace qui est prévu pour, de quelle manière j'apprécie d'être tout de même seule, même si je suis en contact permanent avec d'autres, mais de manière virtuelle. Et puis, si j'arrive à traiter mes peurs de contact présentiel, parce que ça aussi, toute génération confondu les personnes qui disent non, finalement je préfère rester à distance et à la limite ça n'a rien à voir avec la préférence liée au télétravail.
Des propos recueillis par Cléa Favre, toujours en marge de cette épidémie. C'est une question en Allemagne, faudra-t-il bientôt fermer les écoles? Le débat est lancé par la Fédération des enseignants. Il s'estime délaissé par les autorités face à l'augmentation des contaminations dans les établissements scolaires. Blandine Milsan.
C'est le président de la Fédération des enseignants qui a lancé un cri d'alarme au début de la semaine. En Allemagne actuellement, a-t-il estimé, Plus de 300 000 élèves et plus de 30 000 enseignants se trouvent en quarantaine. Et l'inquiétude monte, chez les élèves comme chez leurs professeurs, qui ne se sentent plus en sécurité à l'école en raison de la hausse générale des contaminations. Les établissements font face à la menace comme ils peuvent, en dédoublant des classes quand c'est possible, en décalant des heures de cours ou en envoyant à la maison une partie des élèves pour qu'ils suivent leurs cours par Internet. Mais selon la Fédération, les Länder, compétents en matière d'éducation, laissent trop souvent les écoles se débrouiller toutes seules. De fait, les autorités allemandes veulent à tout prix éviter une fermeture générale dont les conséquences économiques, éducatives et psychologiques seraient à leur sens trop lourdes. Elles indiquent que les personnes en quarantaine sont encore une minorité dans un pays qui compte 11 millions d'élèves et 800 000 professeurs. Blandine Milsan, RTS Info, Berlin.
Un documentaire sur le Covid, considéré comme complotiste, fait polémique en France depuis sa diffusion mercredi.
Accusé en effet de complotisme par plusieurs élus et ONG, ce film entend dénoncer, je cite, « mensonges, corruption, manipulation autour de la pandémie ». Issu d'une campagne de financement participatif, il donne la parole à un cortège de personnes sceptiques et d'experts en tout genre. Sorti sur la plateforme Dailymotion, le film Pierre-Étienne Joye a depuis été retiré de cette plateforme.
Oui, il s'appelle « Hold Up », il dure ou vole près de 3 heures. Sa bande d'annonce a fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Le documentaire relaye, selon ses détracteurs, des fake news et des thèses conspirationnistes. Alors sa thèse, le Covid-19, c'est une manipulation orchestrée par les médias et les politiques. Réalisé par l'ancien journaliste Pierre Barnérias, le film arrive à la conclusion que le coronavirus est l'objet d'un complot mondial. Le Covid y est notamment décrit comme un virus pas plus offensif qu'un autre Covid saisonnier. Il dénonce une idéologie sanitaire autoritaire qui veut contraindre à une société de surveillance et de soumission. Le documentaire parle de manipulation globale et s'en prend aux membres du conseil scientifique qu'il juge majoritairement proches des laboratoires pharmaceutiques. Des politiques ou des ONG ont condamné hier la propagande complotiste de ce documentaire. Par exemple, l'ancien ministre français de la Santé, Philippe Douste-Plazy, qui apparaît dans le film. Il a d'ores et déjà pris ses distances avec ce film qu'il n'a pas vu. Il indique que la crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion au moment douloureux que nous vivons.
Merci Pierre-Étienne Joye. La Pologne opposée au mécanisme européen lié à l'état de droit. Dans une lettre aux dirigeants européens, son Premier ministre explique que le pays ne peut accepter la mise en place d'un mécanisme qui permettrait de priver de fonds les États membres accusés de violer l'état de droit. Cette lettre de la Pologne intervient après une autre missive similaire de la Hongrie qui menace, elle, d'opposer son veto au budget européen de plus de 1000 milliards d'euros. Il s'est éteint le jour de son anniversaire, le dessinateur humoristique Piem, qui croquait avec malice l'actualité française dans l'émission des années 70. Le petit rapporteur est décédé hier à l'âge de 97 ans. Piem, de son vrai nom, Pierre-Georges Marie de Barrigue de Montvallon, avait aussi collaboré pendant 36 ans au Figaro, puis à La Croix. Piem, qui est également le père de Thierry Barrigue, lui aussi dessinateur et créateur de Vigous.
Un peu de football, Fouad Boukhari ?
Volontiers.
Allez, on connaît depuis hier soir les derniers qualifiés pour l'Euro 2021.
Et la compétition devrait se dérouler un peu partout en Europe en juin prochain. La condition est de mise, Patrick Delletreau, car le déroulement de l'Euro est évidemment lié à la situation sanitaire.
Et oui, en décidant d'ouvrir l'organisation de cet euro à 12 pays pour le 60e anniversaire de l'instance, Michel Platini à l'époque et l'UEFA ne pouvaient évidemment pas prévoir qu'une organisation déjà compliquée et coûteuse allait être reportée, puis encore potentiellement perturbée par une pandémie. Mais les dirigeants du football européen se tiennent debout face à la tempête et maintiennent le cap. Les déplacements des équipes ne sont pas un problème puisqu'elles le font déjà en club ou en équipe nationale. Les billets sont en grande partie vendus. Pas de problème, l'UEFA estime ou espère qu'en juin, les spectateurs pourront se rendre dans les stades. Mais l'incertitude de la situation devrait tout de même pousser à l'élaboration d'un plan B, C ou D. Mais officiellement, il n'y en a pas. On sait quand même que l'UEFA est prête à modifier ses plans pour faire face à d'éventuelles quarantaines obligatoires dans certains pays ou des restrictions de voyage ou l'obligation du huis clos. Les rumeurs parlent même de la possibilité de se rabattre sur une seule ville, comme ça avait été le cas pour le final à 8 équipes et à succès de la dernière Ligue des Champions. Mais avec 24 équipes, ça reste tout de même plus compliqué. On imagine peut-être deux villes comme Londres qui possèdent plusieurs stades de grande capacité. On en saura plus début mars lors du prochain congrès de l'UEFA.
Mais sportivement, donc, depuis hier soir, les quatre derniers qualifiés sont connus.
Oui, la Macédoine du Nord, la Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse se sont imposés dans la finale des derniers barrages. C'est une première pour la Macédoine du Nord. Un moment particulier pour la Hongrie qui recevra la France à domicile, la France championne du monde, le 19 juin. Et si le public peut être présent, de grands moments à vivre pour l'Écosse qui jouera dans le même groupe que l'Angleterre à Glasgow et Londres. Et puis on rappelle que la Suisse affrontera l'Italie, la Turquie et le Pays de Galles à Rome et Bakou en Azerbaïdjan si le conflit avec l'Arménie est définitivement réglé.
Merci Patrick Delétro. Du tennis enfin pour clore ce journal. Et on connaît les affiches du tournoi des maîtres, le Masters à Londres qui débute dimanche. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic affrontera le russe Daniil Medvedev, l'allemand Alexandre Zverev et l'argentin Diego Schwartzmann lors de la phase de groupe. De son côté, Rafael Nadal lui sera avec le tenant du titre, le grec Stefanos Tsitsipas, le vainqueur de l'US Open, Dominic Thiem et le russe Andrei Rublev. À savoir également que la dernière, pour cette dernière édition londonienne de ce Masters rassemble les 8 meilleurs joueurs de la saison. Le tournoi se déroulera à Turin à partir de l'année prochaine.